let's go.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Elisabeth Lassayag, de découvrir la solution du jour de Dora Nana. Et on vient d'entendre Jean-François Rial.
Oui, Jean-François Rial qui est déchaîné, c'est notre coach du jour, PDG de Voyageurs du Monde. Et avec vous, Dora Nana, on parle aujourd'hui d'une démarche, d'une solution qui permet aux entreprises de s'engager et de soutenir de grandes causes environnementales par le biais d'objets éco-responsables, par le biais de ces goodies, ces petits objets que l'on a dans les entreprises.
Voilà, tout à fait. Ça s'appelle Gift for Change. C'est une entreprise sociale qui a créé le concept d'engagement par l'objet. En fait, ça permet quoi ? Ça permet aux sociétés de communiquer autrement par le biais d'un objet qui est respectueux de l'environnement. Par exemple, des bracelets, là j'en ai un entre les mains, des tote bags, vous savez, ces petits sacs en toile, ou encore des bougies. Vous pouvez tout regarder d'ailleurs sur europe1.fr. Voilà, vous avez tous les petits goodies, ce qu'on appelle des goodies. Et dans le même temps, ces entreprises, ça leur permet de soutenir financièrement des causes humanitaires et caritatives. Bonjour Alexis Krisev.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur donc, de Gifts for Change. Alors, comment vous définiriez exactement ce fameux concept dont je viens de parler, le concept d'engagement par l'objet ?
À peu près exactement comme Elisabeth l'a défini. Une solution qui permet à des entreprises de s'engager pour des grandes causes par le biais d'objets de communication éco-responsables. Alors, quand on pense aux objets de communication, on ne pense pas tout à fait à l'éco-responsabilité. Un marché énorme en France, 1,2 milliard d'euros de goodies qui sont à 90% produits
en Asie,
non traçables et qui sont en plastique. En fait, c'est 1,2 milliard d'euros de déchets quasiment. Je suis un petit peu excessif quand je dis ça, mais c'est à peu près ça. Mm-hmm. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose de tout à fait différent. Non seulement plus écologique, on va peut-être en parler, mais surtout qui permet aux entreprises vraiment d'avoir un impact positif et de s'engager pour une grande cause.
C'est une façon d'inscrire leur démarche.
Exactement.
Justement, vous dites plus écologique. En quoi c'est plus écologique ? Là, j'ai un petit lion, Simba, je pense. Du roi lion, qui est en bois. Donc, il y a d'autres produits. On voit qu'il y a beaucoup
c'est
de bois.
C'est un petit bracelet, oui.
Vous travaillez avec la filière bois, visiblement ?
Absolument. Alors, on a la fierté d'avoir un catalogue d'objets promotionnels qui sont zéro plastique, zéro électronique. Si vous avez eu des catalogues d'objets promotionnels ou des objets promotionnels ces derniers mois dans la poche, je pense que vous avez rarement eu des objets zéro plastique, zéro électronique. Par ailleurs, donc, nos objets sont fabriqués en bois, en papier recyclé. Ils sont fabriqués en France entièrement. Ils sont fabriqués dans des ESAT par des personnes en situation de handicap, donc qui donnent de l'emploi à des personnes en situation de handicap. Et effectivement, ils donnent des débouchés à des filières françaises, le bois, le lin et d'autres filières qui ont grandement besoin de débouchés. Et donc, il est tout à fait possible, sur un objet aussi incroyable que l'objet promotionnel dont on croit qu'il faut le faire en Asie pour bien faire les choses, c'est tout à fait possible, même cet objet-là, de le relocaliser.
Et le consommateur aussi s'engage. Moi, je prends cet objet promotionnel, on me l'offre ou je l'achète, je pense qu'on peut aussi l'acheter,
absolument.
1 euro, voilà. Je m'engage aussi. Je sais où va mon argent, je m'engage
absolument,
sur cause,
parce que le
par
principe
exemple.
En fait, de l'engagement par l'objet, c'est de permettre par ces objets de soutenir des causes qui ont un lien fort avec l'entreprise qui va les vendre. Par exemple, nous avons monté cette opération dont vous parliez avec Disney. Vous savez peut-être que le Roi Lion est ressorti 25 ans après le premier.
Formidable.
Dans
d'ailleurs.
Ces 25 ans, la moitié de la population mondiale de lions a disparu. À l'occasion du relancement du Roi Lion, Disney s'est engagé pour la protection des lions, pour doubler à nouveau cette population de lions. Et donc ces bracelets permettent de reverser de l'argent à une association, Pantera, qui vient en aide aux félins et aux lions à travers le monde.
Jean-François, pour Voyageurs du Monde, là, ça peut être intéressant.
C'est très bien, c'est très sympa. Moi, pour Voyageurs du Monde, moyen, parce que
pour
je
raisons.
Pense que le goodies est un outil qui, déjà à la base, pose des problèmes de fond sur le plan écologique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on essaye de consommer utile, de consommer intelligent, et le goodies, c'est un peu superflu, même si il y a plein d'entreprises qui en font, donc autant les faire de façon propre, comme le propose Alexis. La question que je vais vous poser, Alexis, est la suivante. C'est quel est l'écart de prix entre un goodies comme celui-ci, là, par exemple, ou celui-ci, par rapport à des Chinois qui font ça en plastique? Est-ce que c'est 200, 300, 400, 600, 700%? Et la question qui suit est évidente. Comment vous convainquez les entreprises d'accepter un tel surcoût? Parce que je trouve votre démarche fantastique. Qualité des produits, localisation, respect des intégration des gens sociaux. Enfin, on connaît par ailleurs votre parcours historique avec Tristan Lecomte, qui est un des premiers engagés sur ces sujets-là. Voilà. Comment vous résolvez cette équation? Parce que des entreprises mécènes qui sont très engagées sur l'écologie et qui vont accepter de payer un surcoût très fort, il ne va pas y en avoir tant que ça.
Alors
comment faites-vous
beaucoup
pour
de questions.
Convaincre
je vais essayer
déjà les entreprises?
Premièrement, il n'y a pas de surcoût, parce que ce n'est pas comparable. On ne fait pas des clés USB, on ne fait pas des batteries de chargeurs. Les clients, ils ont un budget. Ils ont un budget et un nombre de personnes auxquelles ils veulent offrir ces objets. S'ils veulent faire 5000 objets à 3 euros, nous faisons des objets qui varient entre 50 centimes et 8-10 euros. Nous avons des objets pour tous les budgets. Et évidemment, on ne va pas frontalement concurrencer des objets dont l'Asie est experte et la mieux placée en termes de prix. On va sur des objets, le bois, le papier, le carton, qui sont extrêmement performants, y compris en termes de prix. J'aurais des exemples à vous montrer de jeux de loi à moins de 1 euro qui sont magnifiques. Donc on peut faire tout à fait performant d'un point de vue économique. Deuxième partie de ce que vous avez dit, Jean-François, les goodies, c'est inutile.
Non, okay. J'ai pas tout à fait ce que
non,
j'ai
mais
dit.
On pourrait complètement s'en passer. Moi, mon point de vue...
Sur la démarche de l'entreprise,
ouais, et ben moi, mon point de vue, c'est qu'un goodies un peu plus écologique, on peut s'en passer. Mais nous ne faisons pas des goodies, on fait de l'engagement. Et quand on achète ou quand on distribue nos objets, on verse des centaines de milliers, voire des millions d'euros à des associations qui en ont besoin. On donne du travail à des personnes en situation de handicap, des débouchés à une filière bois. Et donc, des goodies, entre guillemets,
c'est
comme les nôtres,
d'outils de communication
c'est beaucoup mieux que pas de goodies du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que c'est un concentré d'impact positif. C'est une solution. Et grâce à cela, les entreprises, ça leur met un pied à l'étrier. On ne pense pas que c'est la panacée. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la transformation de la société, mais c'est un premier pas. Moi, mon constat d'entrepreneur social depuis 20 ans, c'est qu'il faut créer des solutions et qu'une fois qu'on a goûté à l'engagement, on ne revient jamais en arrière. Donc il faut faire des solutions qui marchent,
c'est une façon de les sensibiliser,
qui sont performantes et qui leur montrent que s'engager, ce n'est pas si compliqué et surtout, ça rencontre le succès, ça plaît à leurs clients et ainsi, toutes les entreprises s'engageront et ainsi, peut-être, on changera la société réellement, radicalement.
Merci Alexis Krisev d'être venu nous présenter Gifts for Change.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France Bouge, seconde partie. Gros plan aujourd'hui sur le tourisme, un tourisme différent de celui que nous connaissons et respectueux de l'environnement. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Jean-François Rial, qui connaît bien le sujet, hein, puisque vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde, Dora Nana, qui m'accompagne toute la semaine. Vous nous donnerez toutes les infos en plus tout au long de l'émission. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Charles Moskowicz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur général d'Explorama. Explorama, c'est une application mobile qui nous aide à découvrir la biodiversité qui nous entoure, notamment quand nous sommes en vacances, qu'on va visiter des espaces comme des zoos, des parcs. Explorama peut nous apporter un plus.
C'est ça, tout à fait. Donc moi, oui, je ne vous emmène pas à l'autre bout de la planète. Je vous emmène plutôt dans un autre monde qu'on côtoie en fait tous les jours.
Et à côté de chez nous si...
Voilà, à côté de chez nous, mais finalement, on y est très peu sensible, malheureusement. Donc l'idée de Explorama, c'est effectivement de proposer au grand public de redécouvrir la biodiversité, globalement le patrimoine naturel qu'on a autour de nous, à travers le jeu, donc sur un format de parcours ludique, un peu comme on avait l'habitude de voir des sentiers pédagogiques avec des panneaux. Bah là, maintenant, on est allé un petit peu plus loin et on utilise le jeu.
C'est du e-parcours.
Voilà, c'est du e-parcours. Donc, on utilise le jeu, notamment sur smartphone, pour sensibiliser les gens.
Alors, comment ça se passe? Par exemple, je suis dans une ville, je veux aller même à Paris, je veux aller dans un zoo. Aux zoos de Vincennes, par exemple. Et comment je peux utiliser, comment vous intervenez, Explorama, votre
appli?
Alors,
donc, concrètement, voilà, imaginez, vous êtes en famille le samedi, effectivement, bah, plutôt que de rester devant la télé, alors que le samedi est ensoleillé, et de regarder des bêtises à la télé, bah, vous dites, allez, on va faire une petite sortie famille, on va aux zoos de Vincennes. Donc là, vous téléchargez Explorama gratuitement. Et une fois que vous arrivez au zoo, ça va vous proposer différents parcours pour découvrir alors, soit la biodiversité exotique du zoo, soit on peut aussi découvrir la biodiversité locale. Donc nous, en fait, on intervient au moment de la création du parcours avec le zoo, donc avec nos partenaires, nos clients. Et donc vous, en tant que...
Ce sont eux vos clients.
Voilà, ce sont eux nos clients, pas les utilisateurs. Et donc ensuite, bah, en famille, vous allez aller dans le zoo et puis ça va vous proposer des défis, ça va vous demander d'observer un platane, un micocoulier, et puis peut-être à un moment un animal exotique, etc.
Et je vais apprendre donc, quelque chose de
c'est
ça. Cela.
Donc pour réussir vos défis, il va falloir prendre en photo l'espèce qu'on vous a demandé de trouver, mais pas que, il va falloir répondre à des questions qui vont vous pousser en fait, à réellement observer la plante, à retourner la feuille, à essayer de la comparer avec d'autres arbres, etc. Et donc si vous réussissez tous ces défis, bah, vous allez en avoir des nouveaux, gagner des points, progresser.
Et je gagne quoi à la fin?
Alors vous gagnez des badges et vous gagnez surtout bah,
la
fierté voilà, d'avoir appris des choses et d'avoir bah, sensibilisé aussi vos enfants, etc.
Dora, je crois que vous avez testé. Hein.
Justement, c'est avec les enfants que c'est génial. Parce que là, par exemple, en ce moment, on me propose d'aller au parc André Malraux. Bon, on est dans les studios, mais en gros, je vais découvrir toute la faune
donc
autour.
C'est à Paris, non?
Voilà,
c'est, dans le 15e,
c'est à Paris,
je crois.
Tout à fait. Et du coup, on va me proposer de découvrir le platane, d'aller chercher, de partir à la recherche d'un oranger spécifique. Donc en fait, on peut jouer avec ses enfants et ça permet, c'est très ludique. Parce que ça passe par une application et c'est intelligent. Donc c'est vraiment
ludique, c'est gratuit, Jean-François.
Non, moi j'adore parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'écologie, il y a deux grands sujets graves. Le climat, évidemment, ça, tout le monde en a conscience. Mais il y a un autre sujet dont les gens n'ont pas totalement conscience, même si ça monte en puissance, c'est la problématique de la biodiversité qui s'écroule. Et donc, tout ce qui peut permettre aux gens de comprendre quelle est la variété de biodiversité qui les entoure, c'est fantastique. Et je trouve que, vous voyez, par exemple, j'ai ma petite ferme là dans le Perche que j'ai lancée, ma ferme écologique, et j'ai donc fait venir des associations qui m'ont étudié ma biodiversité. Et ils m'ont fait des rapports. Mais c'était incroyable. Moi qui allais là-bas depuis 20 ans, j'ai découvert qu'il y avait une variété incroyable de biodiversité. Et le hasard est incroyable parce que ce soir, je vais voir Hubert Reeves chez lui parce qu'il plaide pour que la mairie de Paris soit beaucoup plus engagée sur le respect de la biodiversité dans la ville. Et donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de proposer. Effectivement, comme l'a dit Dora, on n'imagine pas la biodiversité qu'il peut y avoir dans un parc...
qui est juste en bas de la maison, à côté de chez nous.
Et donc, je trouve ça génial, votre truc. Et en plus, c'est sous forme de jeu. Donc, c'est sympa. Maintenant, moi, j'aimerais bien avoir une version qui ne soit pas sous forme de jeu. Parce que j'ai envie de savoir, mais vos questions, vous me saoulez, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Une appli qui me donne des infos.
En gros, Jean-François dit c'est bien pour les enfants, mais moi, adulte, j'ai envie de savoir ce que j'ai en bas de la maison sans passer par le jeu.
Voilà. Ok, bah déjà, c'est une bonne remarque. Donc, du coup, on va prendre ça.
Moi,
on va
j'ai
prendre
ça en chose
réunion
dire,
ce
tiens,
soir.
Peut-être dans une V2, ça va être intéressant. Non, à côté de ça, il y a aussi d'autres applications qui sont intéressantes et qui existent déjà, notamment avec le Muséum de Paris qui développe pas mal d'applications dans ce sens-là, notamment INPN, par exemple, INPN Espèce, qui est plutôt une sorte de Wikipédia de la nature. Et puis, on a également PlanteNet, qui est une application française, un peu le Shazam des plantes, qui permet en fait de prendre en photo une plante et ça nous dit ce que c'est.
Voilà. Génial.
Ça, c'est génial.
Comment vous dites que ça s'appelle, ça ?
PlanteNet. Voilà.
PlanteNet.
Donc, nous, on travaille avec eux, justement. On utilise aussi leur algorithme pour analyser la photo que prennent les joueurs. Voilà, donc PlanteNet le fait de cette façon-là, de manière... on prend une photo, ça nous donne ce que c'est. Nous, on a voulu aller plus loin, aller sur justement la dynamique de jeu
vous
pour
avez
s'adresser
voulu mettre
à un public.
Mais il faut penser à cette V2, ce que vous a suggéré Jean-François. On reste ensemble, on continue à découvrir ces entrepreneurs français qui vont vers un tourisme différent et respectueux de l'environnement.
Il est 13h17.
Europe 1.
À suivre, construire son voyage tout en respectant la planète. Vous allez découvrir avec nous une nouvelle solution avec Combigo.
Voyager en respectant la planète, c'est possible et on en parle cet après-midi dans La France Bouge. Faites-vous attention aux destinations que vous choisissez, aux modes de transport pour vous y rendre. Dites-le nous sur Twitter, @Europe1. Vous pouvez également nous appeler au 3921. Elisabeth.
Privilégiez les modes de transport les moins polluants possibles. C'est ce que vous tentez de faire avec Combigo. Bonjour Romain Nautonnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous, vous avez créé une plateforme, c'est un site internet qui permet de rechercher la meilleure combinaison de trajets possibles. Vous combinez les différents itinéraires d'un point A à un point B. Comment ça marche ?
Donc ça fonctionne comme un comparateur classique, type Skyscanner. On saisit sa ville de départ et sa ville d'arrivée. Et l'avantage, c'est qu'on peut saisir du coup énormément de
N'importe quelle ville. Macon Amsterdam, par exemple.
On peut faire un Macon Amsterdam, un Macon New York. Là, on est le seul site sur lequel on peut réserver ce type de trajet. Et donc, une fois que l'utilisateur a saisi sa recherche, on va, nous, calculer toutes les possibilités d'itinéraires possibles en combinant le bus, train, covoiturage et aussi ferry. Donc, typiquement, si on lance un Macon New York, on va vérifier les vols depuis les aéroports autour, donc Lyon, Paris, Genève. On va vérifier, on va calculer les itinéraires donc en bus, covoiturage et train pour rejoindre chacun de ces aéroports et les classer ensuite selon le prix, la durée et bientôt aussi les émissions de CO2 pour que l'utilisateur puisse choisir selon ses critères de voyage l'itinéraire qui lui convienne le mieux et réserver ses billets du coup en quelques minutes.
Donc on peut économiser de l'argent et avoir une démarche responsable.
Voilà, vous disiez tout à l'heure que l'écologie n'est pas forcément compatible avec une politique de prix, avec économie. Et là, actuellement, c'est le cas parce que parfois, on peut trouver des alternatives au transport 100% aérien, qui soient soit uniquement terrestres, soit qui vont combiner du transport terrestre avec du transport aérien et qui peuvent être 40% moins émettrices de CO2 tout en étant 80% moins chers. Et parfois aussi plus rapide.
Donc avec vous, on peut payer moins cher
et parfois plus rapide. Vous nous faites un peu votre marketing là, parce que franchement, plus rapide, moins cher et moins économique en CO2, j'ai un peu des doutes. À mon avis, c'est quand même pas la règle générale. Il y a quelques cas, Mais ce n'est pas la règle générale.
Ce n'est pas la règle générale, mais c'est une règle qui est assez courante si on veut décoller d'un aéroport de taille moyenne qui dessert peu de destinations directement.
Par exemple, donnez-nous un exemple.
Par exemple, on peut prendre l'exemple de Rennes, bon, qui dessert déjà pas mal de destinations, mais en direction de Madrid, il y a peu de vols directs. Et donc souvent, les vols entre Rennes et Madrid comportent une escale à Paris ou à Lyon. Et un trajet avec deux vols émet beaucoup plus de carbone qu'un trajet avec un seul vol. Et donc là, emprunter un train entre Rennes et Madrid pour décoller ensuite de... Rennes et Nantes pour décoller ensuite de Nantes vers Madrid, ça permet d'économiser parfois jusqu'à 30 ou 40% de émissions de CO2 et d'économiser jusqu'à parfois 80% du prix parce qu'il se trouve qu'il y a des vols low cost à 10 euros depuis Nantes, tout en étant
donc
aussi rapide.
Donc vous trouvez la solution la plus rapide possible.
Comment ?
Vous trouvez la solution la plus rapide possible et la moins chère aussi.
Vous avez trois critères en fait. Hein.
Oui, il y a trois critères. Hein. Si vous engagez sur ces trois critères.
Le prix, le temps, et la durée,
le prix et les émissions de CO2.
Et maintenant,
votre utilisateur, il peut paramétrer ses priorités de critères. Comment ça se passe ?
Il peut les paramétrer après comme sur un site classique. Donc, on affiche toutes les itinéraires. Mmh. On calcule en fonction de l'origine et de la destination plus de 2000 combinaisons en temps réel. Et ensuite, il peut filtrer selon ses horaires, selon le temps, le prix, le mode de transport, le nombre d'escales, comme sur un site à peu près classique. Sauf que là, il y a la dimension des différents modes de transport qui rentrent en jeu.
Mmh. Dora, il y a de plus en plus d'entreprises hein, comme ça qui s'engagent et qui s'adaptent.
Oui, parce que les entreprises aujourd'hui, elles sont obligées, hein, notamment face à ce mouvement qu'on appelle le flight shaming. Vous savez, c'est la honte de prendre l'avion, flight shaming.
C'est
un terme suédois. Ils ont même un terme bien à eux qui s'appelle flight sham. C'est le flick shame qui signifie la honte de prendre l'avion parce qu'il pollue. Parce qu'il ne faut pas oublier, on l'a rappelé là à l'instant, l'avion, c'est le plus grand responsable de l'impact négatif du tourisme sur l'environnement, puisqu'il dégage 40% des émissions de CO2 qui sont engendrées au niveau de l'industrie touristique. Un avion, ça émet entre 134 et 148 grammes de CO2 par voyageur par kilomètre, contre 2,6 grammes pour le train, puisque vous le rappelez à l'instant.
En France. Hein.
En France, tout
attention,
à fait.
Parce que le train en Pologne, c'est un peu, ça n'émet pas ça. Hein. Ni en Allemagne.
C'est différent.
Et justement, le dernier exemple en date d'entreprise qui s'engage, c'est la compagnie Air France qui a annoncé hier qu'elle prévoyait de compenser à partir de 2020 toutes les émissions de CO2 sur ses quelques 500 vols intérieurs.
Comment ?
Alors la compensation se fera par le financement de projets de plantation d'arbres, de protection des forêts, de transition énergétique ou encore de sauvegarde de la biodiversité. Ils vont supprimer par exemple tous les plastiques à usage unique à bord à partir de janvier. Ils commencent à trier et à recycler les déchets dès ce mois-ci.
Jean-François, par la plantation d'arbres, c'est aussi ce que vous réclamez depuis quelques mois.
Oui, à condition, la plantation d'arbres, elle ne doit pas être un prétexte à ne pas faire des économies d'émissions de CO2 et de financer la transition. Parce que si vous ne faites pas ces deux choses, vous allez dans le mur. Et nous, ce qu'on propose depuis longtemps, c'est comme on n'est pas capable, on le fait à 100% depuis quelques années. On en plante à peu près 1,5 million d'arbres par an pour un budget d'1,5 million d'euros, donc c'est pas tout à fait rien. Mais ça n'est crédible que si vous respectez les deux conditions que j'ai évoquées tout à l'heure et si vous considérez que l'utilité sociale du voyage en avion est réelle, c'est-à-dire que...
Si on n'a pas trouvé une autre solution, s'il n'existe pas de solution.
D'abord, vous avez l'utilité économique, puis vous avez l'utilité d'échange des peuples. Et moi, je pense qu'on a le droit, entre guillemets, d'avoir quelques crédits carbone par plantation d'arbres pour l'industrie touristique aérienne, parce que contrairement à la plupart des autres activités, production d'électricité par exemple, on n'est pas capable de faire notre transition dans les 30 ans. Donc, comme on n'est pas capable de le faire, en tout cas à 100%, il faut qu'on ait un outil qui nous permet d'y arriver.
Un outil intermédiaire.
Si par contre, on est sur une activité qui peut le faire en 30 ans, il n'y a aucune raison de planter des arbres. Et dernière chose que je glisse sur Air France, c'est au-delà de la compensation, ou moi j'appelle ça plutôt de l'absorption de CO2 émis sur les vols intérieurs, ils ont fait un mouvement majeur hier qui est stratégique, c'est qu'ils se sont mis en objectif de réduction de 50% de leurs émissions globales, donc long courrier compris, à horizon 2030. Ce qui est pile ce que demande le GIEC.
C'est faisable ?
C'est tout à fait faisable. Oui,
ils, vont aussi supprimer tous les plastiques à bord.
Oui, alors ça c'est autre chose, mais ça fait partie des démarches globales. Alors d'ailleurs, je fais une petite correction sur ce que disait Dora tout à l'heure. Je pense que le CO2, ce n'est pas de la pollution. C'est du réchauffement. C'est pas pareil.
Oui, c'est réchauffement climatique.
Émettre du CO2, c'est pas polluer. C'est émettre des éléments qui vont réchauffer le climat. Alors que quand vous balancez du plastique dans la nature, là, vous faites de la pollution. C'est pas pareil. Et je trouve que là, il y a une nuance qui doit quand même être précisée.
Les gaz à effet de serre.
Et Air France va aussi commencer à trier et recycler les déchets dès ce mois-ci. C'est ce que disait la directrice générale d'Air France.
En tout cas, je trouve de la part d'Air France, c'est formidable. C'est la première compagnie qui s'engage autant. Il faut les aider, il faut les privilégier. Il faut, dans vos calculs, que vous l'intégriez, mon ami. quand vous utilisez Air France, en vol moyen courrier, court courrier, vous êtes à zéro émission, etc. etc. Parce que
il faut mettre ça en avant, c'est
les entreprises.
Rare pour être souligné. Voilà,
c'est très rare. Vous savez, nous, on est le seul voyagiste depuis des années à faire ça depuis plusieurs années, à être engagé à 100% sur un carbone neutre. Air France le fait. C'est la première compagnie internationale qui s'engage de façon aussi forte.
Donc on va les soutenir.
Franchement, il faut les aider.
On se retrouve dans un instant pour découvrir tous ces entrepreneurs français qui vont vers ce tourisme différent, respectueux de l'environnement. Comment voyager tout en respectant la planète? C'est la question soulevée dans le dossier du jour de La France Bouge cet après-midi. Vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages via Twitter, @Europe 1, on en a déjà quelques-uns. Vous pouvez également nous appeler au 3921, c'est 50 centimes la minute, Elisabeth. Alors quand on voyage, on peut avoir le réflexe, d'aller sur TripAdvisor, sur Booking, pour trouver le restaurant le plus proche ou un hôtel qui va nous convenir. Un guide en ligne nous permet de trouver le meilleur restaurant du coin, mais en plus un restaurant local. Bio. Bonjour Thévi de Coninck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Faire Trip, F-A-I-R, plus loin Trip, T-R-I-P. Faire Trip, c'est une application qui propose des adresses respectueuses de l'environnement, quelle que soit notre destination. C'est une sorte de guide de voyage responsable?
Oui, tout à fait. En fait, avec Faire Trip, on a voulu réinventer le guide de voyage en proposant une application gratuite pour trouver des lieux. Que ce soit des restaurants, des hôtels, des associations, des expériences autour de soi qui ont tous en commun d'avoir un impact sociétal et environnemental positif et tous un caractère authentique.
Donc comment ça a démarré, vous? C'est parti d'un voyage ou
ouais, voilà,
vous étiez un peu perdu comme ça?
C'est mon associé Brian Corrieri qui, après avoir passé 5 ans en tant qu'attaché parlementaire au Sénat, a voulu un petit peu tout quitter et partir faire le tour du monde. Donc il a voyagé pendant 10 mois. En Asie, en Afrique, aux États-Unis. Et puis finalement, il est revenu en France et il m'a dit, écoute, pendant mon voyage, il y a quelque chose vraiment qui me manquait. C'était un guide que je pourrais avoir tout le temps sur moi, via mon mobile, pour me donner les adresses autour de moi qui sont ultra locales, qui sont authentiques et un petit peu sortir des sentiers battus, sortir un petit peu de ce tourisme de masse et découvrir des endroits un petit peu insolites. Et voilà, et donc du coup, il a appris à coder et en à peine 6 mois, il a développé l'application Faire Trip.
Mais ça n'existait pas? Ça n'existait pas du tout, des guides verts, entre guillemets?
En fin de compte, non, c'était un peu le constat. Il y a beaucoup de blogs.
Vous n'avez pas de concurrents là aujourd'hui?
Aujourd'hui, en tant qu'application mobile, non, on n'a pas de concurrents.
Jean-François?
Non, elle a raison. Il existe un tas de choses, mais qui ne sont pas complètes, qui sont partielles, etc., etc. C'est excellent de proposer ça à un restaurant, hôtel, etc. Sauf que les critères ne sont pas simples quand même. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un hôtel responsable, par exemple? Est-ce que c'est je traite correctement mes salariés? Est-ce que c'est je sers de la nourriture
biologique? J'achète que du mobilier français?
Est-ce que j'utilise pas de l'eau qui empêche la population locale, etc. Nous, on a des critères comme ça, avec l'ensemble de nos partenaires dans le monde entier, pour faire ce qu'on appelle essayer de faire du tourisme responsable ou durable. Il n'est pas question d'avoir des voyages durables et puis à côté des voyages pas durables. Chez nous, c'est tout. Et ben, la liste des critères, elle n'est pas simple. C'est compliqué.
Vous faites
parce
comment?
Quand vous devez tout faire...
En fait, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai qu'on a essayé de simplifier au maximum sur l'app. Aujourd'hui, si vous recherchez un lieu ou si vous ajoutez un lieu sur Faire Trip, vous avez 5 critères. Il y a l'authenticité, le côté local, le côté authentique, je l'ai dit, le côté éthique, le côté solidaire. Et en fin de compte, on peut être dans un hôtel qui traite ses déchets d'une façon durable ou qui, par exemple, va produire ses propres produits sanitaires.
Mais comment vous faites ? Vous frappez à la porte de chaque hôtel, de chaque restaurant ?
On aimerait bien, mais en fait, c'est un guide qui est collaboratif. C'est-à-dire qu'on incite les gens à rajouter des lieux. Et chaque lieu est validé par nos équipes en interne. Alors, on essaie de regrouper les informations, d'aller trouver un maximum d'informations. Et on se repose aussi beaucoup sur la communauté Fairtrip. C'est-à-dire que si vous repérez une adresse sur Fairtrip, vous y allez et finalement, ça ne répond pas aux critères, on vous invite à nous le signaler. Et voilà, on est vraiment dans l'échange. C'est un guide qui est remis à jour, en fin de compte, tous les jours.
Le meilleur contrôle, c'est le client, c'est sûr. Ouais. Et vous savez, par exemple, il existe des hôtels dans le monde qui ont des niveaux d'engagement écologique extrêmement élevés. Construction, déchets, nourriture, etc. Et qui, par ailleurs, je ne vais pas citer de nom, bien sûr, ont un comportement avec leurs salariés absolument épouvantable. Donc,
qui rentre dans quelle catégorie, lui ?
Ah bah lui, il est banni chez nous.
Ce que vous avez dit,
c'est très juste, parce que comment on arrive à le voir, parce qu'on est incapable,
c'est l'expérience
comme vous,
du client,
de vérifier ça de façon délirante, c'est nos retours clients, bien sûr. Hein.
Dora, c'est devenu un point de plus en plus important pour les Français de pratiquer, de faire du tourisme durable, comme on dit.
Oui, tout à fait. Ils y sont de plus en plus sensibles, les Français. Ils souhaitent tous réduire, bien sûr, leur empreinte carbone, y compris en vacances, et puis d'être plus responsables. On est plutôt bons élèves, en tout cas sur le papier, selon un dernier sondage Harris Interactive. On est 7 Français sur 10 à souhaiter voyager responsable. 90% à se dire attentif au respect de l'environnement et à la vie des populations locales dont on parlait lorsque nous sommes en voyage. On est aussi attentif au respect de la faune, de la flore, des ressources naturelles. Bon, on ne va pas se cacher que le gros point noir, c'est le coût financier. Dès qu'on parle argent en français, 14% des Français ne veulent pas en supporter le coût financier. Ils veulent voyager responsable.
Ils veulent tout, mais
gratos. Voilà. Et on est en plein paradoxe. On sait très bien qu'on est tiraillés tous entre protéger la planète et vouloir se déplacer rapidement aussi, donc en avion. Donc voilà, il y a beaucoup de paradoxes. On a soif de silence, mais on veut de la 4G et rester connecté. Donc tout ça, c'est le paradoxe français.
Allez, on continue à parler de ce tourisme différent et respectueux de l'environnement.
Il est 13h37. Europe
1. Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Vous aussi, vous faites peut-être partie de ces personnes qui souhaitent voyager autrement. Appelez-nous pour nous parler de vos choix. Comment préparez-vous vos voyages ? On attend vos témoignages au 3921.
Voyager en respectant la planète, c'est possible et on en parle dans La France Bouge avec vos invités, Elisabeth Assayag.
Oui, nous sommes avec Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1 et nos invités entrepreneurs qui se sont lancés dans cet entrepreneuriat pour tenter de voyager tout en respectant la planète. Nous avons Charles Moskowitz, le fondateur et directeur général d'Explorama. Explorama, c'est une application mobile qui permet de découvrir la biodiversité en jouant. Romain Nautonnier, cofondateur et directeur général de Combigo, qui permet de rechercher la meilleure combinaison de trajets possible quand on souhaite voyager, et Tévi de Coninck, cofondatrice de Fairtrip. C'est une application qui nous propose des adresses authentiques à impact social et environnemental. Je crois, Céline, qu'on a reçu des questions, des réflexions sur Twitter.
Oui, hashtag Europe 1. On a Olivier qui dit: moi, je prends souvent l'avion, je voudrais trouver l'information qui me dit combien d'arbres il faudrait que je plante afin de compenser le CO2 consommé.
Alors,
dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Vous prenez la tête comme un dingue en regardant la nature de l'avion, l'origine de l'avion, vous êtes en classe économique ou en classe affaires, etc., etc., etc. Et vous n'allez jamais y arriver. Et vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire que vous vous êtes trompé, parce qu'en plus du CO2, vous savez qu'on a des gaz supplémentaires à effet de serre lorsqu'on voyage en avion, et vous devez multiplier par deux. Ou alors, vous avez une autre solution qui est 100 fois plus simple, et qui est au-dessus de ce qu'il faut faire, donc vous êtes tranquille, vous plantez un arbre par heure de vol d'avion. Donc si vous faites 8 heures de vol, vous plantez 8 arbres. Et alors après, on va me dire: ah oui, mais alors comment je fais pour planter mes arbres? Je n'ai pas fait, etc. C'est incroyable comment les gens ont besoin d'être totalement assistés. Hein. Tout le monde se prend la tête et personne ne se bouge. C'est très simple. Vous allez par exemple chez mon ami, chez mes deux ONG que je vais citer, parce qu'ils font un travail fantastique là-dessus. C'est E3FOU de Gérard Felzer, qui d'ailleurs bosse avec Air France. Donc ça, c'est fantastique. Ou alors, chez Tristan Lecomte, Pure Project, qui est quand même le Français qui plante le plus d'arbres au monde. Hein, c'est, on a un Français.
Combien ?
Des dizaines de milliers. Des centaines, je pense même des millions.
Il les plante où ?
Et il les plante partout dans le monde. Et d'ailleurs, alors, autre remarque, hein, C'est pas parce que vous voyagez en France que vous ne pouvez pas planter au Japon. C'est pas parce que vous voyagez en Afrique du Sud que vous ne pouvez pas planter en Inde. Les gaz à effet de serre, c'est neutre sur le plan mondial. Hein. C'est pareil. Donc, ceux qui vous disent que ce n'est pas bien de planter en Inde, en Indonésie, il faudrait planter sur une jolie forêt française, ils vous racontent sur le plan de l'effet de serre absolument n'importe quoi.
Céline, d'autres questions?
Oui, on a une question de Marc pour vos invités. Avez-vous une idée du profil type de l'utilisateur de vos solutions?
Ah, alors, allez, Tévi de Coninck.
Bah, chez nous, c'est, en fait, on a deux profils. Il y a des gens qui veulent partager leurs bonnes adresses autour de chez eux. Et on a aussi les voyageurs qui partent au bout du monde, en Asie ou en Amérique du Sud, et qui sont à la recherche de petites pépites qu'on pourrait trouver sur Fairtrip.
Charles, pour Explorama.
Alors nous, c'est plutôt la dynamique de famille.
C'est plutôt familial.
Alors, soit parents-enfants, soit grands-parents, petits-enfants, avec toujours la volonté de transmettre aussi certaines valeurs liées à l'environnement.
Vous, Romain, c'est plutôt des personnes qui désirent voyager, des couples, des familles aussi?
Nous, c'est un peu tout type de profil.
Tout type de
profil. C'est plus un profil géographique, on va dire. C'est plutôt les personnes qui habitent dans des villes, soit qui n'ont pas d'aéroport et qui sont obligées d'emprunter un transport terrestre pour rejoindre l'aéroport le plus proche et voyager ensuite vers une destination étrangère. Et c'est aussi les habitants des villes qui ont un aéroport, mais qui desservent peu de destinations. Et qui souvent, cherchent... les vols sont chers ou polluants et sont obligés de trouver des alternatives depuis les aéroports voisins. Et là, de combiner le train avec le bus, le covoiturage et...
Jean-François, c'est compatible? Comment ça marche en ce moment? Vous avez dit concernant les voyages low cost. Parce que, est-ce que c'est compatible de voyager low cost, pas cher, tout en respectant la planète, tout en respectant l'environnement?
Alors, je pense que c'est compatible si la compagnie aérienne concernée, par exemple, en low cost, fait le geste que vient de faire de décider Air France. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyagez pas cher que vous êtes obligé d'être un plus gros pollueur. Ou alors, on va se retrouver dans un système où on va privilégier les riches qui ont le droit de voyager au détriment de ceux qui sont moins riches.
Ouais, c'est le risque.
C'est un débat très complexe. Après, il y a un autre débat qui est divise profondément les écologistes entre ceux qui sont favorables à la décroissance et ceux qui sont, comme moi, favorables à la croissance verte. Parce qu'en réalité, ce dont on a besoin, ce n'est pas de décroissance, c'est de décroissance de la consommation des ressources de la planète et de décroissance, voire de neutralité totale, sur le respect des biosystèmes. Donc en réalité, ce n'est pas la croissance qui est un problème, c'est plutôt sa nature. Mais il y en a certains, parmi ces décroissants, qui expliquent qu'effectivement, voyager en low cost pour aller se bronzer une semaine en Tunisie et ne rien comprendre du pays, il faut l'interdire. Moi, je pense que c'est très dangereux d'entrer dans ce débat, même si ce n'est pas la nature des voyages que je propose. Parce que sinon, vous tombez dans le système chinois où vous avez une note qui vous est donnée et qui vous donne le droit ou non de voyager. C'est très dangereux. Je pense qu'il faut qu'on neutralise les effets négatifs de gaz à effet de serre lorsqu'on voyage, mais pas rentrer dans ce débat.
Dora, pour terminer le dossier, les autres entreprises qui innovent dans le tourisme responsable, vous en avez trouvé?
Tout à fait. Déjà, on a notre coach à côté, hein, le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial.
Dis donc, Jean-François, vous achetez un peu une conscience, hein, quand même.
Non, je ne crois pas, parce que c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que, si vous voulez, le fait de planter des arbres pour neutraliser les émissions de gaz à effet de serre des avions, c'est la seule solution possible dans l'état de la transition technologique possible. Donc, si vous considérez que c'est s'acheter une bonne conscience et que ce n'est pas justifié, ben, il n'y a qu'une seule autre voie possible, c'est de ne pas voyager. Et moi, je ne sais pas ce que je prône, mais je le prône dans un cadre où on fait des énormes économies, on finance la transition pour pouvoir quand même le faire, non pas en 30 ans, mais 40-50 ans, et pas pour toutes les activités, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire ça, utiliser ce droit à planter des arbres, que pour les activités qui ne peuvent pas faire la transition en 30 ans. Donc je ne crois pas ça, mais il y a beaucoup de gens qui me le disent.
Dora,
alors il y a beaucoup de choses en fait. Il y a du voyage à vélo par exemple aujourd'hui quand on est dans une préoccupation écologique. Il y a des labels aussi, et là je vous renvoie, parce que voilà, si vous êtes sensible au sujet, il existe l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable. Ils ont un label créé en 2004, donc il y a du recul, et vous trouverez toutes les agences voyage françaises dites responsables.
Merci, c'est la fin de ce dossier du jour, hein, on vous a découvert. Merci à tous les trois. Vous allez vers un tourisme différent, vers un tourisme respectueux de l'environnement. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Elle fabrique des bodys dans la ville de Troyes depuis 2 ans. Elle s'appelle Flair et c'est la toute jeune entreprise française qui va bien, merci.
Europe 1. Elisabeth Assayag.
Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, là, c'est une jeune entreprise aujourd'hui qui va bien. Bonjour Clémence Wurt.
Bonjour.
Vous avez 28 ans. 29.
Alors, j'aimerais bien, mais en fait, je viens d'avoir 30 ans.
Ah, ben 30 ans, eh ben, je vous ai rajeuni. Vous êtes la fondatrice de Flair. Ouais. Flair, c'est une jeune marque qui existe depuis 2 ans.
Deux ans, jour pour jour aujourd'hui.
Donc, bon anniversaire. Merci. Et vous fabriquez des bodys 100% français, fabriqués à Troyes. Et ça tombe bien parce que vous êtes née à Troyes aussi.
Exactement. En fait, je suis originaire de Troyes, qui est aussi un des bastions historiques du textile français.
Complètement.
Il y a notamment Petit Bateau et Lacoste, par exemple, qui en sont originaires. Et en plus, mon atelier là-bas, Troyes, c'était une ville très spécialisée dans la maille.
Il y a plein d'industries là-bas.
Exactement. L'atelier où je fais produire, ils tricotent et ils teignent même leur tissu. Parce que nous, en fait, pour les bodys qu'on fait, donc on fait essentiellement du prêt-à-porter. Mais on a commencé aussi à se diversifier. On a sorti un premier body lingerie, quelques maillots de bain, une pièce pour cet été. Et on fait tout donc faire là-bas avec plein de matières différentes, du velours, de la laine, du coton. Avoir une diversité dans les collections.
Alors, pour nos auditeurs, hein, parce que Jean-François posait la question hors antenne, vous pouvez nous rappeler ce qu'est un body?
Ouais. Alors, un body, en fait, c'est un vêtement pour bébé ou pour femme, du coup. Et un vêtement, une pièce. En fait, ça peut se comparer à un maillot de bain, une pièce. Sauf qu'il y a des pressions pour le côté pratique que toutes les femmes comprendront. Et donc, voilà. Et c'est en fait un vêtement, moi j'ai voulu vraiment créer cette marque spécialisée dans les bodys parce que je trouve que c'est un vêtement qui apporte vachement de confort et de praticité aux femmes parce qu'on n'est pas obligé de remettre toutes les 5 secondes son t-shirt ou sa chemise dans son pantalon.
Mais c'est un vêtement enveloppant.
Exactement, et en même temps qui est assez féminin et élégant.
Alors, comment vous vous êtes lancée? Parce qu'il faut avoir cette idée comme ça du body. Pourquoi le body? Et comment vous êtes lancée dans cette aventure de l'entrepreneuriat?
Alors, en fait, déjà, j'ai une maman qui est complètement fan de body et qui en mettait tout le temps. Et donc, qui m'a fait découvrir cette pièce.
Elle vous a inspirée.
Ouais, exactement, que j'ai trouvé hyper confort. Mais l'offre était assez. Enfin, c'était très développé sur le côté lingerie. Beaucoup moins sur le prêt-à-porter, il y avait American Apparel par exemple, mais c'était très basique. Et moi j'adorais ça et je me disais j'ai envie d'avoir des pièces un peu plus modernes, un peu plus habillées, avoir un body un peu pour chaque occasion. J'en porte d'ailleurs un aujourd'hui évidemment,
vous pouvez voir
de la collection qui arrive dans 2 semaines. Et donc voilà, et comme je suis originaire de Troyes, je me suis dit bingo. Et en fait, j'avais bossé pendant 3 ans en marketing chez Uber. Et j'avais besoin de retrouver un côté un peu plus créatif, un peu plus tangible, en fait, du produit.
Et vous avez choisi Troyes. C'est la maille, c'est le textile, ouais. c'est la filière textile avec beaucoup d'outils industriels. En étant une toute jeune marque, c'est facile de s'imposer comme ça en arrivant à Troyes?
Non, et j'ai pas mal de copines d'ailleurs qui essaient de monter leur marque. Et effectivement, c'est assez compliqué de trouver son fournisseur. Ça va être clé pour la réussite de l'entreprise parce que le produit, il faut qu'il soit nickel. Mais effectivement, il y a pas mal d'ateliers qui sont assez réticents. Moi, j'ai eu beaucoup de chance qui croient en mon projet en fait et qui m'acceptent.
Et pourquoi réticents?
Parce que il y a vraiment beaucoup de petites marques qui se créent et c'est tant mieux, mais il y en a autant qui en fait ne fonctionnent pas forcément.
Et qui sont là depuis longtemps, qui sont installées depuis longtemps à Troyes,
en France. L'atelier?
Oui, oui.
Ouais, exactement. Ouais. Eux, ils existent depuis les années 1870.
Donc vous faites travailler aussi d'un outil industriel très ancien.
Ouais, c'est un vrai savoir-faire. Mmh. Exactement. Et donc voilà, ils sont réticents. En plus, c'est des petites productions, c'est pas forcément suivi. Donc c'est un risque pour eux.
Jean-François.
Dans la question clé dans votre activité qu'on se pose toujours, hein, même si je ne comprends rien au body, vous avez bien compris.
Mais maintenant, si, c'est bon.
Un peu plus, mais c'est surtout comment vous gérez l'écart de prix de revient de fabrication par rapport à tous ces pays d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs.
Qui fabriquent à voilà. Moindre coût.
Comment vous gérez, comment vous justifiez de votre valeur ajoutée, votre différenciation? Voilà, c'est ça qui est intéressant de comprendre.
Ouais, carrément. Je pense que le côté justification est assez clair dans l'esprit de tout le monde, surtout avec les modes de consommation qui aujourd'hui évoluent et changent pas mal. Et la consommatrice, en tout cas nous, notre consommatrice cible, qui est la femme active de 35 ans qui vit dans une grande ville, est très sensible à comment elle consomme.
Qui a un certain budget quand même. Hein,
qui a un certain budget, exactement. On est autour des 100 euros, ce qui est effectivement pas donné, ce qui est très raisonnable pour du Made in France. Mais effectivement, ça reste...
Mais le Made in France, il suffit pas, Clémence, pour vendre. il y a autre chose.
Ouais, bien sûr. Il y a, bah, en fait, le tout le côté justement, c'est assez intéressant que vous souleviez ce sujet parce que quand j'ai voulu créer ma marque, je voulais forcément avoir ce côté un peu responsable. Et toutes les marques qui étaient un peu éco-responsables à cette époque n'étaient pas forcément très bonnes, très 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 sympas au niveau du style. Et donc oui, il faut le côté made in France, il faut le côté éco entre guillemets, mais il faut aussi là, un style, une cas. Image de marque importante.
Et c'est le cas avec vos bodys de la marque Flair. Merci Clémence Wurtz d'être venue nous présenter votre jeune entreprise.
Merci à vous.
Qui va bien, merci. C'est la fin de votre émission. Merci à vous Jean-François Rial d'avoir joué le coach. Je rappelle que vous êtes le président, le PDG de Voyageurs du Monde.
Merci Elisabeth.
Merci Dora Nana. À demain.
Elisabeth, à demain.
À demain Céline.
À demain Elisabeth Assayag.